Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette conférence intitulée Le corps de David Bowie. C'est un sujet qui parfois on se demande pourquoi on a mis cette année aux Utopiales. David Bowie et la science-fiction, c'est une histoire longue comme à peu près toute son existence de jeune adulte. Et l'année dernière, on s'était piqué, Sylvie Denis et moi-même, d'un cours sur David Bowie, le temps et la science-fiction. Et cette année, l'envie nous a été donnée de continuer cet exercice en s'appropriant la thématique du festival qui est le corps et de le lier à David Bowie au travers de la science-fiction, mais aussi au travers de la construction mythique que peut être David Bowie.
Oui.
Voilà.
Donc, bonjour, bienvenue. Et merci d'être venu à une heure aussi matinale pour moi, en tout cas. Pour moi, c'est la première conférence des Utopes, donc vous inaugurez tout. Donc, comme le disait Antoine l'année dernière, on avait déjà officié, et on recommence, je répéterai ce que j'ai dit l'année dernière. À la base, je suis un auteur de science-fiction et une traductrice, et Antoine est photographe et traducteur aussi. Et donc nous sommes des amateurs éclairés, on n'est pas des spécialistes, mais du moins ce qui me concerne, un amateur éclairé, ça veut dire que j'ai quand même pas mal potassé de bouquins et passé une quantité de temps sur le net à rechercher des images, qui est un travail difficile. Et ennuyeux, et bien voilà. Donc le corps, oui, ça s'imposait de façon absolue pour le personnage dont nous parlons. Donc je rappelle que c'est quelqu'un qui a eu une carrière qui a duré à peu près 50 ans. Avec je ne sais pas si les chiffres sont exacts, parce qu'avec les ressorties, les rééditions, etc., ça devient compliqué. Une trentaine d'albums, et au moins des films, des vidéos, un jeu vidéo, des costumes,
des séries télé,
des clips, enfin tout. Le problème, c'est pas le manque de matériel, parce que à la limite, c'est trop, il y en a trop. Donc j'ai dû faire des choix. Nous avons dû faire des choix. On peut peut-être juste. Oui, il n'y avait pas le grand machin avec les. Il n'y a pas le grand machin avec les tous les albums. C'est pas grave. Ok, il a disparu. Bon, c'était juste un aide-mémoire. Pour montrer la quantité d'albums et la quantité de choses accomplies par quelqu'un qui a été extraordinairement prolifique, avec une capacité de travail, je dois dire, assez étonnante, même si aidé quelquefois par des substances. Et donc la question que je me suis posée en considérant la totalité de ce qu'il a pu faire, c'est tout simplement comment est-ce qu'on est passé de cette image-ci, qui est celle de son premier 33 tours, où il a à peu près une vingtaine d'années, à cette image-là, qui est la même personne 10 ans plus tard, avec des quantités d'incarnation entre les deux. Et surtout, comment est-ce que le David Bowie de 67, dont les premiers albums n'ont pas eu un succès extraordinaire, a fini par trouver un public en 72 avec Ziggy Stardust. Pour moi, la réponse étant tout simplement l'utilisation qu'il a fait de son apparence physique. Il le faisait déjà avant, mais il l'a poussé à des extrêmes qui n'avaient jamais été vus auparavant. Et donc, on va essayer de voir un petit peu comment ça s'est passé et quelles ont été les étapes d'une transformation progressive et qui, bon, c'est un cliché, mais c'est un fait, qui n'a jamais changé pendant 50 ans. La transformation est la constante. Ok. Et donc, oui, donc ça, c'était juste un petit clin d'œil pour vous dire que, non seulement la transformation est la constante, mais le corps est universel. Et Bowie finit par le retrouver à peu près partout, y compris dans ce genre de choses auxquelles les gens ont pu s'amuser. Qui plus est, comme c'est un corps qu'on retrouve partout, on en sait à peu près tout ou presque. Si tu veux montrer la suivante, on trouve même les mensurations pour les costumes à un certain moment. Les costumes vont revenir par la suite parce qu'ils sont absolument primordiaux à la fois pour l'effet qu'ils ont eu à l'époque et l'effet qu'ils ont eu par la suite sur la mode, sur d'autres artistes et en dehors du champ simple du rock et de la musique. Donc, là nous sommes environ en 67-68. En fait, Bowie a commencé à essayer de chanter professionnellement à peu près à l'âge de 16-17 ans, âge auquel il a quitté l'école. Et là, on a une des premières grosses influences sur son évolution, c'est Lindsey Kemp. Dont je ne sais pas s'il est connu en France ou pas. C'était, il est mort il y a très récemment, c'était un chorégraphe, un metteur en scène, un danseur anglais, avant-gardiste, homosexuel, excentrique, très amusant, et qui, à l'époque, avait des cours de danse de mime à Londres. Et dans une période où Bowie n'avait pas énormément de succès, où les choses marchaient pas bien, il en avait un peu marre de la scène rock. Il a été l'élève de Lindsey Kemp pendant un certain temps. Et il a dit énormément dans beaucoup d'interviews par la suite que c'était grâce à lui qu'il avait appris à se servir de son corps. Bon, c'est certainement pas Lindsey Kemp a pas tout fait. Mais c'est évident qu'il a joué un rôle dans la mise en confiance de quelqu'un qui dit qu'il était, du moins au début, d'une grande timidité. Tout ce que Bowie dit est à prendre avec des pincettes, avec l'idée qu'il est parfaitement capable d'avoir affirmé le contraire à un moment ou à un autre dans sa carrière. Donc... et comme vous pouvez le constater, l'esthétique de Kemp à cette époque, ça n'a rien à voir avec une esthétique rock. L'influence directe, c'est le mime Marceau, c'est la Commedia dell'arte, c'est le théâtre expérimental, mais ça n'a vraiment rien à voir avec ce que pouvait être le monde du rock'n'roll à cette époque-là. Et donc Bowie a joué dans des spectacles sur scène et a ensuite a recollaboré avec Kemp un petit peu plus tard. Même époque, même constatation, on est encore fin des années 60. Pour moi, cette chanson, cette image illustre une chanson qui s'appelle The Wild-Eyed Boy from Free Cloud, qui est assez peu connue, mais pour moi, il est là, le Wild-Eyed Boy. Et donc, on n'est pas encore dans Ziggy, on n'est pas dans le glam, on est avant. Ouais. Même période, on est toujours dans la période Bowie hippie. Qu'il a été sans lettre. Ça, c'est une photo qui a été prise à ce qui s'appelait le Beckenham Arts Lab, qu'il avait créé avec une amie chez qui, au passage, il logeait, parce qu'à l'époque, il se baladait un petit peu de canapé en canapé. Et c'était une mode de créer des sortes de collectifs artistiques qui se proposaient de faire participer les gens, de monter les spectacles, etc., etc. Ce qui s'est passé avec Bowie à l'époque, c'est que comme Space Oddity est sorti en 69 et a beaucoup marché, certaines personnes ne venaient pas pour participer, ils venaient pour voir Bowie gratter sa guitare, ce qui n'était peut-être pas le but recherché. Mais bon, les cheveux, il n'y a plus de boucles et les cheveux commencent à pousser. Et on arrive à un album qui s'appelle The Man Who Sold the World. Là, on commence à en rentrer dans le décalage avec l'image et dans le brouillage de l'image masculine et féminine. Alors, il précisait bien à l'époque que la robe qu'on voit était un man dress, c'est-à-dire c'était une robe pour homme conçue par un couturier qui s'appelait Mr. Fish, dont le nom était Mr. Fish. Sachant qu'à cette époque, Bowie et sa femme fréquentaient pas mal de clubs homosexuels à Londres, ce qui a permis de rencontrer un certain nombre de gens avec qui ils pouvaient collaborer, notamment Mr. Fish et plus tard Tony Buretti, qui va faire une bonne partie de ses costumes. Et la photo a été prise à l'endroit où ils habitaient à l'époque, c'est-à-dire un endroit qui s'appelait Haddon Hall, qui était une maison victorienne qui a malheureusement été détruite plus tard, et la décoration, ils avaient chiné des meubles art déco, des choses comme ça. Donc c'était très, très, très chic et décadent. Une autre pose avec une autre robe. Que je vous laisse apprécier. C'est le genre de choses qu'on voit encore, enfin, on voit surtout si on cherche sur Internet. Mais bon, on voit bien qu'il a l'intention de faire quelque chose pour exprimer une conception de la masculinité qui n'est pas tout à fait celle qui était en vogue à l'époque, sachant que c'est 69-70 et que, bon, les choses n'étaient pas ce qu'elles étaient aujourd'hui, ce qu'elles sont aujourd'hui, pardon. Des images de la même période. J'aime beaucoup celle qui est en dos à droite où on le voit avec Angie, parce que c'est avec sa femme qui c'est elle qui a les vêtements connotés masculins et c'est lui qui pousse le berceau. Non, pas un berceau, c'est un landau. Et on a, c'est des photos de promo de Hunky Dory, de l'album suivant. Photos, il n'y a pas vraiment de commentaires à faire. C'est parmi les photos où il est le plus féminin et où il joue le plus de la proximité avec des stars hollywoodiennes comme Lauren Bacall ou comme Marlène Dietrich, ce qui est bien entendu intentionnel. Peu de choses ne sont pas intentionnelles dans ce qu'il fait, dans la façon dont il se montre et dont il se présente au public. La question étant, comment passe-t-on de ça, parce que ça marche pas, c'est-à-dire que les albums ont un succès disons d'estime, quelques bonnes, il y a des gens qui, des journalistes qui apprécient, qui font des bonnes critiques, mais ça se vend pas assez, donc en fait sa carrière elle décolle pas. Ce qui est d'autant plus ennuyeux qu'à la même époque, son producteur, Tony Visconti, qu'on voit là, a un autre poulain qui s'appelle Marc Bolan, et dont la carrière, elle décolle avec une enfilade de hits. Et c'est le début du glam. Et cette photo-là, non, tu peux la garder, pardon. Le groupe qui avait été formé à cette époque s'appelait The Hype. Ce qui est de hype en anglais, je pense que de nos jours, on dirait du buzz ou de la pub ou du marketing. C'est vraiment le fait de pousser médiatiquement un groupe. Et ça montre ce qui préoccupait Bowie à l'époque. Et comme vous pouvez le constater, ils n'avaient pas encore trouvé le truc au niveau esthétique, parce qu'ils sont censés être des sortes de héros de comiques. Et Bowie était Rainbow Man, et je crois que De Visconti était Hype Man. Et je me rappelle plus ce qu'était Mick Ronson, qui était déjà là à l'époque. Mais bon, voilà, ça n'a pas marché. Et donc oui, ça c'est pour rejoindre ce que je disais à propos de Marc Bolan, c'est le début de la période de ce qu'on appelle le glam rock, qui se caractérise, je vais essayer de résumer rapidement mais c'est pas possible, qui se caractérise par ce genre d'apparence, avec beaucoup de paillettes, beaucoup de théâtralisation, de distance, de critique dans le de critique et de second degré, c'est-à-dire qu'il se prenait pas au sérieux, et c'était ça arrivait en critique de la façon dont les chanteurs, genre Bob Dylan, les gens avec des t-shirts et des jeans et qui étaient sérieux et qui parlaient de choses sérieuses. Le glam, c'était pas ça. Le glam, c'était on s'amuse, on fait du théâtre. Donc là, on doit avoir Mott de Hoople, on a Bowie, on doit avoir Alice Cooper, je sais plus si on doit avoir Roxy, le début de Roxy Music en haut, et je crois qu'on a Roxy Music juste après. Avec non, c'est Bolan. Donc vous pouvez voir la façon dont il est habillé. Il y a de l'argent, il y a des étoiles. La science-fiction est jamais loin. Il y a eu un moment dans la culture à ce moment-là de la culture populaire, pardon, où les deux étaient vraiment en proximité et où esthétiquement les groupes pouvaient emprunter à l'imagerie SF. Donc on a peut-être Roxy Music après, je ne sais plus. Ah ben voilà, oui. Brian Eno avait encore des cheveux, un peu. Donc je ne sais pas, je vous vois pas, donc je ne sais pas si pour vous ça évoque des souvenirs ou si vous découvrez quelque chose dont vous n'auriez jamais vu des images. Moi j'avais 10 ans à cette époque, hein. Donc ce n'est pas des souvenirs, c'est des souvenirs que j'aurais pu avoir. C'est plus compliqué. Toujours sur la question esthétique, je voulais qu'on ait des images des autres productions de l'époque qui faisaient le même jeu, et qui avaient les mêmes interrogations sur le genre, sur l'apparence, sur les codes du masculin et du féminin. À cette époque-là, Andy Warhol avait créé une pièce expérimentale qui s'appelait Pork, dont on voit une photo. Et Bowie et sa femme étaient évidemment allés voir le spectacle et étaient devenus amis avec une partie des acteurs. Et comme vous voyez, c'est pas du glam, il n'y a pas les paillettes, il n'y a pas la SF. On est du côté expérimental. Et warholien du spectre esthétique. Et on a Tim Curry dans Rocky Horror, qui arrive un petit peu après Ziggy et Bolan, mais qui est aussi une conjonction du discours sur le genre et de la science-fiction, mais pas tout à fait avec les mêmes codes. Le personnage de Tim Curry dans Rocky Horror, il est encore quelque part dans le côté du travesti, dans les bars résilles et les jartelles et tout ça. Et ce qu'on va voir, c'est que Bowie, lui, il fera pas ça. Voilà. Donc là, bon, on a Tim Curry et un autre personnage moins connu qui est Wayne County, qui est devenu Jane County quelques années après. Bon, qui a eu une carrière rock avec Wayne County and the Electric Chairs, si vous êtes des amateurs de rock garage et de choses comme ça, qui était quelqu'un d'excentrique, de provocant et de vraiment absolument pas classique, mais qui n'a pas eu une carrière extrêmement énorme, du moins qui n'a pas rencontré un public autant que Bowie. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est The Hype qui traîne à nouveau. Juste un petit coup d'œil pour montrer la façon dont la presse, surtout la presse populaire, traitait Bowie à l'époque. Et en général, si on s'amuse un petit peu à faire, il y aurait quelque chose à faire sur le vocabulaire utilisé, parce que c'est vraiment à hurler de rire. Donc juste là, bon ben. Ils expliquent les fans qui ont hurlé, etc. Et ce que j'aime beaucoup, C'est wiggle his bottom, ça veut dire c'est tortiller du derrière. La façon dont dans la presse le voit, c'est que c'est vraiment pour eux c'est excessivement bizarre. Ils comprennent pas ce qui se passe. J'ai pas le temps de non, j'aurai pas le temps d'en parler un peu plus. On va passer. Et là, on arrive finalement au moment où toutes ces petites choses et ces influences vont trouver une expression plastique. Dans le personnage de Ziggy Stardust. Donc, dans les influences au départ de Ziggy Stardust, parce qu'il y en a beaucoup, il y a Iggy Pop, que j'ai oublié, il y a Kubrick, il a vu 2001, et c'est manifestement un film qui l'a beaucoup marqué et qui l'a influencé. Et le début du costume de Ziggy, en fait, il est inspiré des drugs, des voyous dans. Orange Mécanique, pardon. Ce qui va s'effacer par la suite. Mais au début, c'est vraiment ça. On le voit dans les photos et on le voit dans l'ancienne, une des premières affiches. Un petit peu. Toujours pareil, là, c'est le personnage se prend corps. Et prend cher avec la couverture de l'album et avec les premiers costumes qui vont être faits par Tony Buretti, dont le fameux costume avec le tissu en circuit imprimé. Et on a la science-fiction. Et, on a le temps de passer un petit bout de vidéo pour le plaisir.
Pour le plaisir.
Hop. Parce qu'il faut voir. Donc c'est un enregistrement de la BBC. J'espère.
Je regarde fonctionner. J'ai appuyé sur la lecture, ça fonctionne.
Ça marche. Ça fonctionne. On va juste passer le début. Hein.
Pushing through the market square, so many mothers crying. News had just come over, we had 5 years left of sighing. News guy wept when he told us Earth was really dying.
Je suis désolé, c'est frustrant. C'est fait exprès.
Ça sert un propos.
C'est une de mes vidéos préférées parce que c'est le début. Il est jeune, il est parfait, il est en super forme et c'est une des prestations les plus. Et on a eu la chance d'en avoir une comme ça où il est je sais plus comment on dit en français, at the peak of his form. Au meilleur, au top. Ouais, on peut y aller. Et après. Ah oui, toujours dans la provocation. Un photographe qui va devenir son photographe quasi officiel de l'époque, même officiel, c'est Mick Rock. Donc c'est à lui qu'on doit un certain nombre de ses clichés, donc qui vont évidemment faire scandale. Avec le fait qu'il déclare être homosexuel dans un article du Melody Maker, juste pile poil quasiment au moment où l'album va sortir. Évidemment, ça fait du buzz. Il était déjà marié à l'époque et il avait un gamin, histoire de bien brouiller les choses. Ensuite, je pense qu'on a à nouveau des photos de concert, celle en couleur étant celle du passage à Top of the Pops, qui est citée par quantité de gens, et notamment de gens qui ont par la suite formé des groupes, des gens comme Boy George, des gens comme, je vais avoir des trous de mémoire, des gens comme Mark Almond, des gens de U2, ce passage à la télévision est quelque chose qui a marqué les spectateurs qui étaient jeunes, qui avaient entre 12 et 16 ans et qui, 5 ou 10 ans plus tard, bah, ils vont se mettre eux aussi à faire de la musique. Et ce qu'ils disent, enfin, moi je l'ai lu dans beaucoup d'interviews, ce qu'ils disent, c'est que c'était comme avoir un arc-en-ciel dans la télé, dans l'Angleterre sombre, triste, de cette époque-là, et extrêmement collémentée, conformiste, etc. Ouais, la suite. Et donc, voilà, un petit peu à nouveau de presse. Est-ce que David Bowie vous donne des cauchemars? Le texte est un petit peu petit, mais ça revient, c'est pareil. Le vocabulaire utilisé est le même. C'est freak, c'est strange, c'est bizarre, c'est tout ce vocabulaire pour décrire quelque chose, comme s'ils n'arrivaient pas à appréhender ce qui était en train de se passer, et pour cause. Et là, nous avons normalement un petit, tout petit extrait. Je vais vous
petit extrait
d'une émission de la télévision britannique. Il n'y a pas de sous-titres, mais je vais vous dire. Juste noter le ton du présentateur extrêmement compassé et très, très BBC et, très, et qui manifestement ne comprend pas ce qu'il voit. C'est très... Avec les gros plans sur le maquillage, parce que c'est important.
A superstar of the beat age prepares to meet his public. David Bowie spends 2 hours before a show caressing his body with paint.
Vous avez entendu. Il a dit il passe 2 heures avant chaque spectacle à caresser son corps.
With a pasty complexion and ochre dyed hair in a Teddy Boy style of 20 years ago. Yet with a dash of makeup, he's transforming himself into an object that is worshipped by millions of girls.
Oui, donc il était en train d'expliquer qu'il caressait son corps avec de la peinture et qu'il s'habillait. Enfin bon, un truc qu'on fait pas, quoi. Enfin, quand on est, même quand on est une star du rock, mais quand on est un homme, on fait pas ça. Et j'adore ce passage avec le ton du présentateur est extraordinaire. Quelques exemples pris ici et là. Notre problème, ça a été de réussir à choisir des images. C'est pas le problème, c'est pas qu'il n'y a pas d'images, c'est qu'il y en a trop. On va continuer parce que sinon je vais pas avoir trop le temps. À nouveau quelques exemples de Ziggy Stardust en spectacle. Ce que j'aime beaucoup, c'est le contraste entre les photos de scène et les photos de behind the scenes, la photo avec la table à repasser. C'est très, c'est un extraterrestre avec une table à repasser. À nouveau, bon, quelques images de concert. La raison pour laquelle j'ai mis celle avec celle où il fait des pompes, c'est la ligne dans Ziggy, dans la chanson. Oh, bon sang, fatigué, désolé. Quand il décrit Ziggy Stardust, il dit "With God given us ass", avec des fesses données par Dieu. Il fallait voir. Mise en scène à nouveau avec costume SF et toujours le même jeu sur qui est un homme et qui est une femme avec Angie Bowie, Angela Barnett, sa femme. À nouveau le costume, les épaulettes, on est en plein SF. Et là, on glisse petit à petit déjà avec les combinaisons, les jumpsuits avec les en tricot. En fait, on est plus, les costumes sont plus de Tony Buretti, ils sont d'un styliste japonais qui s'appelle
je sais plus.
Ah, tu sais plus, c'est Kansai Yamamoto, je crois, mais j'ai un trou. Et là, on a une étrangeté qui vient d'une zone différente. C'est plus l'étrangeté de l'espace de la science-fiction, c'est l'étrangeté du Japon. Donc il commence à utiliser ses costumes. Et d'ailleurs, le styliste dit qu'en fait, au départ, c'était les combinaisons, tout ça, c'était des costumes de filles, mais qui rentraient dedans. pour ça que j'avais mis les mensurations au début. Est-ce que vous vous en souvenez? Un peu de science-fiction pour rappeler l'ambiance de l'époque et certains des titres alors de Phil Hellman, de Joe Adaros et surtout La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin qui se passe sur une planète où les habitants sont hermaphrodites et où il y a pendant tout le roman des descriptions de personnes mais qui ne sont pas des hommes et qui ne sont pas des femmes. Si vous ne l'avez pas lu, c'est un de ces 25 livres qu'il faut avoir lu, ce genre de choses. On continue. Normalement, Ziggy est... Oula, il est tard. Normalement, Ziggy est mort sur scène, mais pas tout à fait, puisque a suivi un album intitulé Aladdin Sane. Et on commence à avoir un changement dans la présentation corporelle, parce que Aladdin Sane, c'est encore Ziggy. Bon, il a les cheveux rouges, il a l'éclair, il a la couleur. Et ce qui est primordial, c'est qu'il est l'éclair est à la fois rouge et bleu, c'est-à-dire il y a à la fois le froid et le chaud. Et en même temps, il est blanc. Il est d'une pâleur maladive. Et si on regarde l'intérieur de la couverture, le corps est en train de disparaître derrière cette espèce de chose blanche, argentée. Pour moi, ça préfigure, ou ça dit sans le dire, le début de la dégradation physique qui arrive avec l'usage de la cocaïne et sur lequel on devrait être un petit peu après. Ah non, c'est pas après. Ok, on s'arrête là. C'est-à-dire que à partir du moment où on fait des tournées, etc., etc., qu'il faut tenir le coup, on prend des substances. Comme David Bowie n'était pas quelqu'un qui faisait les choses à moitié, évidemment, il le faisait beaucoup plus que tout le monde. Je ne sais plus si on a la vidéo ou pas. On n'a pas la vidéo, c'est pas grave.
On n'a pas la vidéo, mais on peut parler d'une interview.
Voilà, c'est une
interview. Une courte interview dans une limousine. Je ne sais pas si ça évoque des.
Ça, c'est dans Cracked Actor, oui. C'est dans un documentaire.
On le voit traverser les États-Unis en limousine. Il est interviewé par le réalisateur du documentaire et qui lui demande comment il se sent aux États-Unis. Et il a cette réponse, j'ai l'impression d'être comme une mouche dans du lait, tout en buvant sa brique de lait. Et là, on préfigure ce que, de manière très factuelle, on préfigure l'alien qu'on va retrouver dans The Man Who Fell From the Sky.
The Man Who Fell to Earth.
T'es
fatigué aussi.
Oui, je suis un peu fatigué sur les titres. Mais c'est en voyant ce documentaire que le réalisateur a eu l'idée d'utiliser David Bowie dans le rôle de l'alien qu'on a pu voir dans ce film magnifique, qui a donné aussi une incarnation corporelle pour beaucoup de gens de ce qu'est David Bowie et Ziggy Stardust. On demande à des gens d'une quarantaine ou une cinquantaine d'années.
Oui, ça fait
généralement,
partie.
Généralement, c'est une fait des choses. Ça fait partie de l'esthétique et de la construction mythique qu'on peut avoir de David Bowie, dans le sens où il aura une couleur rousse, poil de carotte avec des cheveux à la Aladdin Sane, tout en ayant une apparence très androgyne du fait de sa maigreur. On a un David Bowie qui est très skinny, qui est presque...
Oui, il est un peu remplumé, mais pas complètement, dans The Man Who Fell to Earth. On va être obligé de glisser,
à
continuer les métamorphoses. La carrière de Bowie est marquée par un ensemble de projets qui ont échoué, et notamment des projets de spectacle et de comédie musicale, c'est-à-dire que, par exemple, il a voulu monter... faire un show basé sur 1984 de George Orwell, ce qui n'a pas été possible, la veuve de Orwell n'ayant pas accepté de céder les droits. Bowie fonctionnant comme il fonctionnait, il ne jette pas les idées, il en conserve certaines, Et ça donne le Diamond Dog Tours, qui va être un spectacle extravagant, totalement science-fictionnel, et qui lui permet de piquer l'auteur de la couverture à Mick Jagger, qui a eu le malheur d'en parler dans une conversation. C'est l'anecdote, hein. Moi je raconte ce que la plupart des journalistes disent, et qui donne cette couverture absolument extraordinaire, où on a une chimère, où on a une créature venue d'ailleurs, un monstre de freak show, comme on pouvait en voir dans les cirques à une certaine époque.
Qui a été censuré d'ailleurs, au
oui,
passage.
Qui a été censuré parce que le chien a des attributs de chien. Voilà, voilà. Donc, quelques petits exemples de la conception de la chose. Bon, oui, c'est des dessins et des croquis, etc. Et donc, si, je ne sais pas si on voit bien, il explique à quoi va ressembler le décor. Donc, il y a la ville qu'on voit au-dessous qui s'appelle Hunger City. Et en fait, la situation, c'est que c'est la situation post-apocalyptique classique, où les gens vont vivre au sommet des gratte-ciels et où les gamins vont piller les magasins et piquer des diamants, les manteaux de fourrure et s'habiller et s'amuser, et etc. Évidemment, la construction du décor va coûter épouvantablement cher, sera épouvantablement compliqué à installer, à démonter. Et le spectacle va perdre une quantité abominable d'argent. Oui, voilà, il y en avait encore. Donc il y a à nouveau des croquis. Et une photo de Pellert dans les croquis préparatoires pour faire la peinture. Ce qui donne un effet d'étrange tout à fait extraordinaire. Je crois que je ne sais plus si j'ai les... Oui, il y a très peu de photos du Diamond Dogs Tour qui a tourné uniquement aux États-Unis. Et donc, on en voit une, j'ai eu du mal à en trouver de bonne qualité, où on voit un petit peu le décor de la cité futuriste et Bowie. Et une photo prise à la même époque, où on commence à voir qu'il a perdu quelques kilos et qu'il commence à avoir l'air moins que réellement humain. Et ça, oui, celle-ci étant un article écrit au moment du retour des États-Unis, où là il a l'air d'une espèce de vampire étrange. En plus, il s'était rasé les sourcils après une cuite, et parce que il avait proposé une chanson, je crois que c'était à Mott de Opel, j'espère ne pas me tromper, et comme il n'avait pas voulu la chanson, ben, il n'était pas content, donc il avait rasé ses sourcils. C'est une façon d'utiliser son corps comme une autre. Voilà, à nouveau les cauchemars. On l'avait déjà, celle-là. Quelques petits exemples des influences et des échos du Diamond Dogs, avec la couverture de Pin-Ups, où on voit à nouveau l'effet de double, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est un homme et qui est une femme dans ces deux créatures pâles et étranges. Et si vous voulez lire un texte de SF qui comporte une chimère, c'est la chimère de Greg Egan, où une telle créature a effectivement été créée par manipulation génétique. Et puis, pour le plaisir, une novella de Alastair Lodge qui s'appelle Diamond Dogs, et où des gens arrivent sur une planète, il y a une énorme tour extrêmement étrange, et ils montent dans la tour, c'est une sorte de labyrinthe, et ils doivent résoudre des énigmes Mais au fur et à mesure qu'il résout des énigmes, les ouvertures et les passages, les endroits où ils doivent passer deviennent de plus en plus petits, donc ils sont obligés de se couper des membres et de se modifier au fur et à mesure qu'ils évoluent dans la tour. C'est un texte de Reynolds que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à traduire il y a un certain temps. Et il est fan de David Bowie, bien sûr. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur Diamond Dogs. On va juste... Est-ce qu'on a... Voilà. Ça, c'est le dog 30 ans après. Donc, c'est un sculpteur qui s'appelle Edgar Askelovitch. Pour trouver son site, ça s'appelle Aspen Crow. Et c'est un sculpteur hyper réaliste. Et parmi les choses qu'il a faites, il y a ça. C'est-à-dire, c'est une sculpture de la créature, mais avec un Bowie vieux, ce que je trouve absolument à la fois complètement creepy et bizarre et étrange et extraordinaire. Et il n'a pas censuré le chien. Donc ça, c'est des vues uniquement de la tête du personnage. C'est un travail extraordinaire. Si vous allez regarder son site, il y a des tas de personnages de gens célèbres ou pas, parfois juste réalistes et parfois décalés. C'est très chouette. Je vais m'arrêter parce que tu vas pas avoir le temps.
Je vais prendre rapidement. Il me restera un petit quart d'heure pour vous parler du cinéma et de Bowie et de l'incarnation de Bowie au cinéma. C'est juste après. Et de parler d'une époque, d'un film que certains méconsidèrent beaucoup, parce que ça reste, je l'ai revu la semaine dernière pour repréparer cette table ronde, et ça reste quelque chose qui, d'un point de vue filmique, vaut que des tours, même s'il n'est pas parfait. Il vaut que des tours pour beaucoup de choses. C'est aussi le premier film de Tony Scott. Je ne sais pas si dans le public vous connaissez Tony Scott, c'est le frère de Ridley Scott, qui n'a pas fait beaucoup de films, qui en a fait quelques-uns, qui a surtout fait de la production ensuite, mais qui, pour son premier film, a adapté un livre qui en français s'appelle Les Prédateurs. Et ce film raconte une histoire de vampire entre David Bowie et Catherine Deneuve. Et l'intérêt aussi d'avoir David Bowie en vampire, c'est qu'il incarne quand même, dans les années 80, c'est un peu le chanteur MTV. On appelle généralement dans les années 80, cette période, les années MTV de David Bowie. Et il répond à tous les critères. Si on regarde, il est toujours en costume. Il y avait une photo qu'on avait utilisée l'année dernière sur David Bowie et le temps, où il venait de tourner ce film. Il était à Cannes. Il était vraiment squelettique, en costume trois pièces, très années 80, très quinquant. Et le film de Tony Scott reprend un peu cette esthétique, c'est-à-dire que c'est une esthétique très années 80. C'est une... Tony Scott avait fait de la pub avec son frère juste avant de commencer sa carrière de cinéaste et de producteur. Donc on a une séquence d'introduction qui est très bizarre, c'est qu'on a carrément Bela Lugosi is dead, cette chanson clippée avec tout un cut-off de moments qui sont très syncopé, où on ne sait pas dans quel pied on met une réalité. Tout le film se base sur des vampires qui sont en huis clos. Si on regarde, je crois que si on regarde vraiment le générique à la fin, il doit y avoir maximum une quinzaine d'acteurs listés, vraiment crédités. Et c'est une apparition de Bowie qui est très squelettique, donc très immortel, où il incarne vraiment une figure de stabilité, d'androgyne. D'androgynie toujours, mais d'immortalité telle que le vampire, on peut l'incarner. Tout ça dans le premier quart d'heure, parce qu'après, il se passe ceci. C'est le vampire qui décrépit, c'est l'immortalité qui ne réussit pas. On pense au départ, quand on regarde le film, je vous pogne un peu, de toute façon, ce film est sorti en 83, je pense que je ne vais pas fâcher beaucoup de monde. Bowie commence à décrépir et à vieillir, voire à disparaître de l'écran. Je ne dis pas qu'il disparaît totalement, mais il disparaît de l'écran, et de jouer sur ce physique, justement, de cette décrépitude. Je pense que Tony Scott s'est beaucoup amusé à torturer le David Bowie iconique qu'on a eu au point de vue iconographique. Et on a tout un jeu sur l'appropriation du, enfin, la décrépitude, sur ce que c'est de vieillir et de vivre une immortalité. Je vous conseille quand même, et pour certains, cette prouesse de tout ce que vous voyez, ce sont des prothèses et du maquillage, et pour les années 80, c'est quand même du très bon travail. Comme quoi, on n'a pas forcément besoin d'effets spéciaux numériques pour réussir des bonnes choses, mais ça, c'est qu'un avis personnel. Et moi, je voulais parler d'un deuxième David Bowie que peu de personnes connaissent. Ceci, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Omicron The No Man's Soul et qui a été très important. Donc, le projet a été lancé en 94, le jeu est sorti en 99. C'est le premier jeu de Quantic Dreams. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ils font des jeux à expérience ludique assez différente à chaque fois. Le dernier jeu qu'ils ont fait, c'est un jeu sur les androïdes qui s'appelle Detroit, qui est un jeu à choix multiples où on doit décider des bonnes actions ou des mauvaises actions qu'on fera en tant qu'androïde. Mais je l'ai mis là parce que il y a une sorte de contagion qui se produit dans l'iconographie de Bowie et dans la manière dont on perçoit Bowie non plus comme une personne, mais comme un mythe, c'est que dans ce jeu, David Bowie est à la fois chanteur, et on peut assister à ses propres concerts, il y a 4 morceaux de musique qui sont cachés dans des endroits différents du monde, et il interprète surtout une entité numérique qui n'a pas d'existence, qui est une entité qui dépend d'un réseau, et qui est le chef des opposants, des rebelles de cet univers. Et en plus, il y a un truc qui est très bien dans le jeu, c'est que sur la notion de corps, le joueur incarne des corps réutilisables, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut décider de changer d'apparence pour changer de méthode de jeu parce qu'on est mort. Et Bowie, en incarnant ça, commence pour moi à montrer ce qu'il va montrer plus tard. C'est le côté de l'appropriation culturelle de son corps et de son apparence. Là, je vous ai mis ce Star Out Tonight qui date de 2012, je crois, de mémoire. C'est son avant-dernier album. 2013.
Enfin, peu importe.
Et dans lequel joue Tilda Swinton. Je ne sais pas si ça vous parle. Tilda Swinton, c'est cette actrice qu'on voit sur le... Ça doit être de ce côté-là pour vous. Et on a toute une appropriation dans ce clip qui se base autour de la vieillesse, justement, et de la... On assiste à un couple, le clip est très beau pour ça, un couple formé par Tilda Swinton et David Bowie, sur lequel, qui sont des rockstars sur le... Pas sur le déclin, mais qui se sont rangés et qui assistent à un jeune... au fait que des voisins juste en face de chez eux s'installent et vont répéter de la musique. Et le voisin...
Ça les dérange.
Et ça les dérange, tout en sachant que le voisin ressemble quasiment trait pour trait à un David Bowie qu'on pourrait trouver sur la pochette de Low, par exemple, le premier album de la trilogie berlinoise, ou en concert avec les Spiders quand ils font leur répétition dans le grenier. Et cette appropriation culturelle et du corps de David Bowie continue aussi généralement par contaminer son épouse qui prend le même apparat que David Bowie. Et on ne sait plus qui est qui est féminin, qui est masculin, tout en sachant que Tilda Swinton est connue aussi pour être très androgyne et possède à peu près les mêmes qualités physiques au niveau androgynique que David Bowie. Ça, c'était toi qui voulais en parler.
Oui. Tu voulais rien rajouter d'autre sur...
Moi,
non,
juste
ok,
après,
d'accord.
J'ai autre chose d'accord. Juste après.
Oui, On est pris par le temps et par le fait qu'on a, on a seulement couvert une partie de la carrière. Vous trouverez d'autres exemples de jeux avec son corps dans d'autres albums comme Outside, qui a été accompagné d'une série de photos où on le voit en turbané de bandages. Enfin, il y a des tas de photos. Il faut également dire qu'il a dessiné ou peint un certain nombre d'autoportraits. Donc ça aurait nécessité encore une heure. Donc c'était pas possible. Et en plus, son image s'est diffusée avec le temps et avec la notoriété dans quantité d'autres arts. Donc là, ce qu'on a, c'est la couverture d'un comic qui s'appelle The Wicked and the Divine, qui est plutôt bien, et dont un des personnages, comme vous le voyez, ressemble à Bowie à une certaine époque, à l'époque Thin White Duke. Tu veux de l'eau ?
Hop.
Et avec l'utilisation de la photo, de la fameuse photo de police qu'on trouve sur des t-shirts, qu'on trouve sur des tas d'autres supports. Et donc je vous ai mis quelques petits exemples, mais c'est vraiment juste des exemples, parce que si vous cherchez sur le net des représentations de Bowie sous des quantités de formes, cherchez sur Etsy, c'est hallucinant. Donc, mais c'est vraiment quelques exemples en guise de quasi conclusion. Oui, vas-y, parce que moi je...
Ça, c'est. Est-ce que vous reconnaissez l'actrice? C'est Gillian Anderson, et c'est tiré de l'adaptation d'American Gods, qui a été diffusée il y a 2 ans sur un channel américain qui devait être Star X. Et il faut savoir qu'à un moment apparaît le nouveau dieu de la communication, et qui apparaît sous l'incarnat même de David Bowie, enfin le costume que David Bowie a utilisé dans Guy from Mars. Et du coup, c'est vraiment une appropriation culturelle et vraiment iconique de Bowie, qui peut quasiment se passer de corps pour pouvoir s'incarner et n'a plus besoin forcément de communiquer. Il faut savoir que David Bowie a eu une communication sur les dernières années où on entendait très peu parler de lui, sauf pour ses projets professionnels comme Lazarus ou ses albums. Et qui
Après, un quasi-silence d'une dizaine d'années.
Voilà. Mais il apparaît toujours dans la pop culture. Un autre exemple que je n'ai pas pu... que j'ai pas pu mettre en avant, c'est par exemple Twin Peaks. Il faut savoir que est-ce que je vous dis un peu ce qui se passe dans la nouvelle saison de Twin Peaks par rapport à David Bowie, ou sans vous dire vraiment ce qui lui arrive, ce qui s'est passé, c'est que David Lynch voulait vraiment que son personnage Philip J. Fry soit dans la saison 2 de Twin Peaks. Le problème, c'est qu'il a contacté son agent. L'agent lui a répondu, à cause de soucis de santé, David Bowie ne pourra pas participer au tournage de Twin Peaks. Mais ils ont demandé l'autorisation de réutiliser la première saison et d'embaucher quelqu'un qui ferait du doublage par-dessus pour corriger quelques défauts. Mais il y a pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, il y a une autre utilisation de Philip J. Fry au moment quasiment de la conclusion de cette saison, où on réussit à faire apparaître ce qui sera dans la tête forcément des gens, David Bowie, alors qu'il n'est pas là. Et c'est une petite... pour moi, c'est... et je pense que c'est le cas pour toi aussi, Sylvie, on avait appelé ça l'appropriation du corps christique. On a vraiment dans la dernière partie, surtout avec Black Star, dont je voulais passer un extrait, je ne sais pas si on va avoir le temps.
Je ne sais pas si on a le temps.
Il est 55, on peut décemment se le permettre, je pense. Hop, j'ai juste à faire suivant, théoriquement. Ah non.
Non, ça, c'est pas Black Star.
Non, mais il ne veut pas dire Black Star. Je suis désolé pour vous. Il ne veut pas dire Black Star. Donc pour faire simple, Black Star est un Black Star est le dernier album de David. Ah, désolé.
Non, ça c'est non, ouais. On l'a déjà vu.
Mais je vais pas pouvoir le diffuser. Mais Black Star, par exemple, est le dernier album où il reprend quasiment le dernier album, mais aussi le morceau éponyme qui ouvre cet album et qui a donné un clip qui dans lequel il reprend quasiment toutes ses incarnations. On voit Major Tom dès l'introduction qui a une apparence squelettique, c'est quasiment prophétique. On a un David Bowie qui se met en prêtre. On a vraiment une impression de corps christique et de mise en scène de l'Eucharistie sur le fait de la gestuelle dans la manière où il a construit vraiment de, à la fois de manière filmique mais narrative ce clip. On a vraiment une dernière offrande et un passage vraiment dans la pop culture pour moi qui est annoncé, tout comme Lazarus qui a été le dernier clip qui était sorti de son vivant, où on retrouve quasiment, si vous faites attention, quand à un moment David Bowie se gave de son guide d'hôpital, et on retrouve cette combinaison bleue à paillettes qui fait énormément penser à cette première combinaison dans laquelle beaucoup de gens l'ont connue, qui était verte. Et ben, du coup, je te laisse conclure.
Oui, parce qu'on n'a plus
ouais,
le temps.
On n'a plus le temps.
Ça, c'est juste un des autres exemples de dissémination et d'appropriation par d'autres gens, non seulement de la totalité du corps, mais de fractions et d'emblèmes, comme les yeux, comme l'éclair. Et ceci, c'est une sculpture des vieilles dents de Bowie, c'est-à-dire qu'à partir des années 90, il a toujours fait ses dents. Et il y a des gens, ils n'ont pas aimé. Ils sont attachés à l'apparence ancienne. Et donc, cette sculptrice a fait
un moulage,
oui, voilà. Enfin, elle a travaillé à partir d'une photo. Et on trouve des masques, étant donné qu'il a tourné plusieurs films où il a été nécessaire de faire des moulages de son visage. On trouve des masques et on trouve des masques peints d'après des vrais maquillages, mais aussi parfois réinterprétés. Donc, si vous cherchez Bowie masque, vous avez millions d'images qui sortent, donc on ne peut pas tout mettre. Et on conclut, voilà, la conclusion de cette thématique à la fois de la disparition du corps et de sa dissémination dans le public, dans la culture populaire, c'est la conclusion d'un livre sur le glam. Et donc il rappelle qu'il n'y a pas eu de cérémonie à sa mort, et donc il a été une crémation sans personne et les cendres ont été dispersées à Bali. Et ce que dit Simon Reynolds, c'est que ce que dit ce fait, c'est que la personne David Bowie, le personnage que vous avez apprécié et aimé, il n'est pas là dans le corps réel et qui disparaît. Elle est dans toutes les images et toutes les créations et toutes les représentations dans la tête des gens qui existent. Et quand j'ai lu ça, j'étais absolument ravie que quelqu'un dise ce que j'avais pensé. Parce que pour moi, non seulement il y avait ça, il y avait le fait qu'il n'y aurait rien, il n'y aurait pas un machin public, etc. Et aussi, ça donne aux gens, c'est très malin, ça donne aux gens la permission de faire ce qu'ils veulent. Puisqu'il n'y a rien eu d'officiel, c'est démerdez-vous, faites ce que vous voulez avec ce que j'ai été, etc. Et ça aussi, c'est dans les paroles de Starman, quand il dit let the children lose it, let the children use it. Il parle du Starman, let the children boogie. Et je ne sais plus s'il y a ma photo de. Oui, il y a ma photo de Brixton, parce que je suis allée à Londres il y a 2 ans. Et par exemple, une des façons dont on retrouve son image dispersée, ça c'était une fresque qui existait avant, mais après son décès, les gens ont commencé à mettre des fleurs déjà, à écrire des graffitis, à écrire des cartes postales, etc. Ce qui fait qu'ils ont recouvert la fresque avec du perspex, mais les gens ont quand même continué. Et si on va sur Internet et qu'on cherche le journal de Brixton, ils font régulièrement des petits entrefilés sur l'état de la fresque. Ça change tout le temps. Ça, je trouve ça assez étonnant.
Voilà.
Nous sommes presque à l'heure, ouais.
C'est notre conclusion. J'espère que ça vous a plu. On vous remercie d'être venu aussi.
On vous a pas laissé le temps de poser des questions. On est absolument désolé.
On est désolé.